Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Bonjour Ravéli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Ravéli Lemel, on avance dans notre réflexion sur la paracha, ce texte que nous lisons dans nos communautés, dans la Torah, chaque semaine. Et donc là maintenant, on va parler notamment des korbanot. On est sur Nassau. Et c'est une longue paracha. Mais alors il y a quelque chose de très étonnant pour quelqu'un de novice comme moi, c'est qu'on répète plusieurs fois la même chose. Et notamment sur des sacrifices qui, a priori, j'espère ne vexer personne, ne font pas mon quotidien. Donc, pourquoi ? C'est une bonne occasion de s'arrêter là-dessus, et c'est d'ailleurs votre souhait. Pourquoi la Torah répète aussi souvent des choses qui nous semblent quand même tout à fait similaires ?
Alors, exact. On est dans une paracha qui est le passage la plus longue de toute la Torah. Et on se retrouve donc avec plusieurs épisodes. D'abord, la nécessité de faire le décompte des enfants de Lévi. Et puis après, encore deux autres sujets. Et on arrive à un verset dans lequel on nous dit « Vayihi beyom kalot Moshe l'akimata mishkan » Le jour où Moshe a terminé de dresser le tabernacle, eh bien à ce moment-là, il va loindre, puisque vous savez qu'il faut mettre de l'huile d'onction. Et il le sanctifie. Point. On est à quelle date ? On est le premier Nissan. Superbe. Et à ce moment-là, que va-t-il se passer ? Eh bien, va y akrivun nesiyé Israël. Nous avons les princes d'Israël qui amènent des offrandes. Ils sont les princes des tribus et ils amènent leurs offrandes. Super. Parfait. Merveilleux. Et dans ces offrandes, ils offrent entre autres des chariots, toutes sortes de choses. Qui vont servir entre autres au transport, il n'y a pas de problème, superbe. Et puis après, ils vont nous amener leurs propres offrandes. Et là, brusquement, on se retrouve dans ce qu'on appellerait une forme de tunnel qui va durer des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets dans lesquels, en dehors du nom de la personne qui amène l'offrande et de la tribu à laquelle il appartient, les termes sont identiques. C'est-à-dire, on commence, Vayehi, et ce fut Hamakriv, celui qui amène le premier jour son offrande, c'est Narshon ben Aminadav, le Maté Yehuda, qui appartient à la tribu de Yehuda. Ok, super. Et après, Vekorbano Karat Kesef Achat, et après, on nous fait l'énumération exacte de ce qu'il offre. Superbe. Et celui qui offre le deuxième jour, et on nous cite son nom et sa tribu, et qu'est-ce qu'il offre ? Exactement la même chose. Et on va se retrouver comme ça pendant 12 fois, où on nous cite juste des noms différents et des tribus différentes, mais les offrandes sont identiques. Alors, évidemment, on a quand même ici quelque chose de très curieux, c'est comment se fait-il que la Torah répète comme ça de manière récurrente, alors qu'on aurait très bien pu nous dire autrement, les princes d'Israël ont amené leurs offrandes, voire même on donne leur liste, leur nom, la tribu à laquelle ils appartiennent, et ils ont offert chacun, voilà ce que chacun offre, et super, Mazal Tov, tout va bien, on a, entre guillemets, économisé un certain nombre de versets. Or là, pas du tout. Alors, tout d'abord, évidemment, il y a ici aussi une question à se poser, c'est comment se fait-il que la Torah nous décrit le détail exact de leurs offrandes, c'est-à-dire un bol d'argent, d'un poids de 130 shekels, d'un bassin d'argent de 70 shekels, une louche en or de 10 shekels, enfin voilà, on a aussi cette problématique du détail. Alors on va d'abord commencer par répondre à la seconde question, et sur place le Midrash, eh bien évidemment va nous montrer que toutes ces offrandes nous renvoient à des symboliques fondamentales. On ne va pas s'arrêter sur toutes, mais un exemple très simple, lorsque l'on parle de ce fameux bol d'argent, la valeur numérique c'est de 930, ça correspond aux années de la vie de Adam. 130 shekels de poids correspond à l'année à laquelle, à l'âge à laquelle Adam et Ève ont donné naissance à Seth. Seth qui va être celui qui va faire redémarrer l'humanité après le meurtre de Cain vis-à-vis de Abel. Misraq et Hadkesef, le bassin en argent, qui est une valeur numérique de 520. 500, c'est tout simplement l'âge où Noé a eu son premier enfant. Et 20, qui correspond aux années qui ont précédé le moment dans lequel Dieu annonce le déluge et le déluge arrive et la naissance de cet enfant aussi. Les 70 correspondent aux 70 nations qui viennent de Noé, etc., etc. En tout cas, il y a énormément de symbolique. Mais néanmoins, la question qui se pose ici, eh bien, c'est de savoir pourquoi chacun va être décrit. Et pour cela, j'aimerais revenir, si vous le voulez bien, au début de la paracha de la semaine dernière, et on va retrouver cette terminologie dans la paracha de cette semaine. En effet, la semaine dernière et cette semaine aussi, eh bien, on va effectuer un décompte. Et ce décompte, eh bien, le texte va l'exprimer de la manière suivante, « Nasso et Roche », ce qui veut dire littéralement « élève et Roche la tête ». Alors, c'est très curieux parce que le terme du décompte, eh bien, il est autre, d'accord ? On a le mot « le tispor », « fait le compte ». Or là, pas du tout. On nous parle donc de « nasso et roche » qui véritablement exprime l'idée d'élever la tête. Élève la tête des enfants d'Israël et tu vas les compter. Pourquoi c'est ce terme qui est utilisé ? Et entre autres explications, il y a la suivante, c'est que le décompte des enfants d'Israël, c'est parce qu'il va falloir rappeler aux enfants d'Israël que ils ont chacun leur singularité, mais que leur singularité passe à travers quoi ? À travers roche, à travers leur tête, à travers leur esprit, à travers, au fond, ce qui fait la dimension particulière de chaque être humain, puisque notre pensée, notre manière d'appréhender, de vivre les choses est systématiquement différente, même si parfois elle se retrouve très très proche. Pourquoi est-ce que cette dimension-là de singularité est tellement importante pour la Torah ? Parce que, en effet, comme nous allons être à un moment ce qu'on appelle un klal, c'est-à-dire un groupe, une unité, une entité globale qui prend une certaine direction, on risquerait de se faire disparaître à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire de ne se voir que comme un élément du groupe et oublier qu'au fond, nous apportons au groupe, à travers cette dimension singulière, que nous devons développer chacune et chacun. Et lorsque le texte nous parle des offrandes, eh bien, il nous dit, voilà, on est dans un groupe, et a priori, on va tous offrir la même chose. Donc, c'est la même chose. Et dit non, pas du tout. Mais vous arrêtez, vous dites, mais c'est pas possible. Il a offert le bassin en argent, et l'autre offre le même bassin en argent. Donc, ils offrent la même chose. Alors, si c'est comme ça, ils ont offert chacun de leur côté un bassin en argent. Eh bien non. Je cite le nom de la personne et sa tribu, et je dis, lui, il a offert un bassin en argent. À l'autre, il a offert le même. C'est pas le même. Ah, mais c'est le même. C'est pas le même. Comment c'est pas le même ? Il n'est pas offert par la même personne. Il n'est pas offert par la même personne et on a ici quelque chose d'extrêmement important. C'est que ce que je fais, parce que ça passe par moi, même si c'est le même acte que l'autre, il n'a pas le même retentissement. Lorsque le peuple d'Israël reçoit la Torah sur le Sinaï, eh bien, on dit le soir de Pessah, Dayenu, si nous avions juste été proches du Sinaï, ça nous aurait suffi. Ça nous aurait suffi pourquoi ? Alors d'abord peut-être pour dire merci à Dieu, mais disent les maîtres de la Kabbalah, c'est qu'au moment où nous sommes au Sinaï, eh bien, que se passe-t-il ? Dieu va nous dire, accomplissez les mitzvot, faites ce que je vous demande, et à partir de là, sachez que chacun des mouvements que vous allez opérer, même s'ils vous paraissent être identiques aux autres, a une portée qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer et qui est particulière et qui est unique. Et ça, c'est extrêmement important. Plus que cela, certaines personnes disent « Oui, mais hier j'ai prié, aujourd'hui je prie. » Mais hier et aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Tu as eu une évolution, tu as eu un mouvement vers le haut, vers le bas, vers là où tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'es plus totalement le même. Et donc, les mêmes mots que tu vas prononcer aujourd'hui ont un retentissement qui n'est pas le même au niveau cosmique et même par rapport à ta propre existence. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'un des drames, au fond, que l'on peut vivre, c'est avoir l'impression qu'on fait tous la même chose et quelle incidence ça a. Eh bien non. Le corban qui est amené par tel prince et le même corban qui est amené par un autre prince semblent être vus de l'extérieur les mêmes, mais correspondent à des choses radicalement différentes. D'ailleurs, quand vous voyez le Midrash sur place, eh bien, le Midrash va sur chacun des corbanotes, c'est-à-dire sur chacun des princes, donner une autre lecture. Ça veut dire que sur chacun, il y a une dimension autre qui est présente. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que justement, on éclate, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est groupe. Et donc, comme on éclate, comme on est groupe, on pourrait se dire, bon, mais voilà, au fond, elle est où ma singularité ? Elle n'existe pas parce que je fais le même acte que l'autre. Il y a la limite que je le fasse ou que je ne le fasse pas, ça ne changera rien. Si ça change, et chaque jour, eh bien, l'impact n'est plus le même parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas le même. Voilà un petit peu, entre autres, cette leçon que l'on est en train de nous donner. Et donc, à partir de cela, évidemment, ça nous donne d'abord un regain de fraîcheur par rapport à ce que nous faisons au quotidien. Et ça nous permet de comprendre ô combien chacun des membres du peuple d'Israël est important parce que chacun d'entre lui, au-delà du fait qu'il existe en tant que tel et qu'il ait une valeur intrinsèque, lorsqu'il agit, son acte a un retentissement particulier parce que même s'il est le même que le mien, il passe à travers le prisme d'une personne unique et donc, évidemment, génère et construit quelque chose d'unique.
Vous savez, c'est quoi un anniversaire, Rav Lemel ?
C'est quoi ? C'est un gâteau avec des bougies et on dit un petit
bord de c'est beaucoup. Ça, on est très contents d'ailleurs. On se plaint jamais. Hein. Mais non, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait plus vivre sans toi. Alors, c'est tellement beau. C'est beau, hein ? On m'a dit que c'était le Rabbi Lubavitch qui avait dit ça. Mais le problème avec ces très belles phrases, c'est que nous, les élèves, on se les passe, mais des fois, on se trompe et on nomme sur quelqu'un d'autre. Mais on m'a dit que c'est le Rabbi Lubavitch qui a dit « Un anniversaire, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait plus vivre sans toi. » Je trouve que c'est une jolie manière de vous interpeller après ce que vous venez de dire.
Exactement. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs ce que nos maîtres nous disent, Rayav, que la dame Mar, Michel, Nivraolam, que chacun a l'obligation de dire, mais le monde n'a été créé que pour moi. C'est-à-dire, j'ai une valeur en tant que telle, et le monde sans moi, eh bien, il lui manque quelque chose. Et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la raison pour laquelle on va vivre cette répétitivité d'actes que l'on peut avoir en tant que juif au niveau des mitzvot, chaque fois, comme étant quelque chose de totalement unique, mais qui crée quelque chose de totalement unique. Au passage, c'est ce que nos maîtres nous expliquent, il y a un texte qui dit « Higid l'Adam Asiro », c'est un verset, Dieu va raconter à l'individu quelle a été sa conversation. Et la Gemara nous dit, et les maîtres du Talmud nous disent, Dieu va nous rapporter même ce qu'on appellerait des conversations entre guillemets futiles, mais pas au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire ces conversations qu'on peut avoir avec son conjoint ou d'autres personnes, eh bien, Dieu va nous les rappeler. Ça veut dire quoi ? Alors, légèrement, les gens disent, oui, Dieu va nous dire, ah, t'as vu, t'as perdu ton temps. Non, non, nos maîtres disent, il ne s'agit pas de ça. Je crois que c'est Nefesh HaChaim, d'ailleurs, qui dit ça, si mes souvenirs sont bons. Dieu va te faire prendre conscience, après 120 ans, l'impact qu'ont eu tes paroles. Non pas dans une dimension péjorative et négative. On ne prend pas suffisamment la mesure de la puissance de ce que l'on fait. On ne prend pas suffisamment la mesure de l'impact positif que peuvent avoir toutes ces actions qui nous paraissent parfois un peu petites, mais qui ont un retentissement énorme. On ne prend pas suffisamment la mesure que parce qu'elles passent à travers le prisme de ce que l'on est, elles sont totalement uniques et que l'univers en a besoin.
Rabbi Lemel, je vous remercie et je vous souhaite un grand et beau Shabbat. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, plein de bonnes choses.
Rav Mordechai Biton est en ligne avec nous à présent. Bonsoir, Rav Mordechai.
Shalom Aleichem, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Mavouach, après ces fêtes merveilleuses de Shavuot. Rav Mordechai, alors, on va continuer d'étudier notre paracha avec vous. Et vous voudriez faire le lien entre le nazir, celui qui ne boit pas de vin, qui se coupe les cheveux, on connaît, qui se coupe pas les cheveux, on connaît, la sota, femme qui est accusée de s'être isolée avec un homme et d'avoir, on imagine, trompé son mari, et en tout cas c'est l'accusation, et le don de la Torah. Alors pourquoi les trois ? D'abord parce que les deux premiers sont dans la paracha de notre semaine, et que On sait très bien que les parachutes font en sorte de toujours tomber plus ou moins à côté des fêtes, donc elles sont toujours liées aux fêtes qui tombent dans leur
Absolument,
contexte.
absolument. Parce que ces parachutes Nassau tombent toujours autour de, pardon, de, comment dirais-je, de Shavuot. Il y a donc un lien. Alors, quel peut être le lien qu'on peut établir entre le nazir? Le nazir, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va faire un vœu de naziréat et qui donc va s'abstenir de boire du vin ou de s'approcher de tout ce qui peut amener à la consommation du vin, qui ne va plus toucher, pardon, à ses cheveux et qui, à la fin de son père de naziréat, va se couper les cheveux. La femme sota, c'est une femme qui est en compagnie d'un autre homme, parce qu'on parle de la femme sota, mais il faut parler de son amant. C'est livrée, est accusée en tout cas de s'être livrée à la luxure avec un autre homme que son mari, et donc elle est mise en accusation. Dans ces deux domaines, qu'est-ce qu'on voit? On touche à des domaines qui sont des domaines de la sainteté. En fait, le nazir, c'est quelqu'un qui va s'abstenir de boire du vin, donc il va faire œuvre d'ascèse, il va se retirer en quelque sorte. Il va se priver, disons, d'une certaine forme de consommation de la matière. Il va manger autre chose, il ne va pas boire de vin. La femme sota, par contre, en compagnie de son amant, bah, elle s'est livrée à la débauche, possiblement, parce que ça reste à prouver. Mais dans les deux cas, on retrouve cette thématique, qui est une thématique de Kedusha. Et dans la Haftara de sainteté, donc dans la Haftara, c'est-à-dire le texte des prophètes qu'on lit après la paracha, on lit Shimshon. Qu'est-ce que c'est Shimshon, l'aventure de Shimshon? Un homme qui venait de la tribu de Dan, qui devait être le Mashiach. Lorsque Yaakov Avinu, notre ancêtre, va bénir les tribus, quand il arrive à la tribu de Dan, dont sort Shimshon, il interrompt sa série de bénédictions, il dit « L'Ishwatera Tiviti Hashem, Hashem, j'espère encore en ta délivrance. » Pourquoi, nous dit Rashi, il a la vision prophétique de Shimshon, qui avait la force d'être le Mashiach, mais qui va perdre ce statut. Comment il va le perdre? Il va le perdre avec une femme, Dalila. Cette femme, il la voit, et il la demande à ses parents parce qu'elle lui est agréable à ses yeux. Quelle était l'erreur de Shimshon pour faire court? L'erreur de Shimshon, et Shimshon était un tzaddik, un juste d'une immensité insondable pour notre génération. Et en fait, Shimshon a pensé que cette âme Dalila était une âme qu'il a fait la force de rédimer. Et nos sages nous disent qu'il y a deux types d'âmes que l'on peut rédimer. Il y a celle que les tzaddikim, les justes, peuvent rédimer par leur prière, par leur regard, par leur enseignement, et il y a celle que seul Dieu peut rédimer. Et en fait, il va se tromper en la voyant, en la regardant et en disant elle est bonne à mes yeux. Eh bien, il se trompe et donc il va tomber dans ses filets et à la fin donc terminer en tuant donc 3 000 Pélishtim, en portant 3 000 Philistins dans au moment où il meurt. Ce qui est intéressant, c'est que le mot kesef, kesef ne veut pas seulement dire l'argent, ça veut dire aussi le désir. Mais le mot kesef, c'est un mot qui est écrit, formé de lettres kaf, samer et pe, qui sont des lettres qui viennent juste après le mot aïn, l'œil. L'œil voit et le cœur désire. Et c'est ce qui va se passer pour Shimshon. Shimshon voit et son cœur va désirer. Alors il va désirer, il va voir quoi? Il va voir une âme qu'il peut rédimer. On a une lecture qui est complètement stupide du Tanakh, toujours une lecture qui va avec les films de Cécile B2000. Mais Shimshon était un tzaddik, c'est quelqu'un qui voit ici la possibilité de participer au processus messianique en remontant une âme qui est perdue chez les Philistins, en la remontant vers le haut, en la remontant vers Dieu. Mais en la voyant, il se trompe. Il se trompe. Et donc, il va faire le mauvais choix. Et en fait, c'est un petit peu, si vous voulez, la thématique centrale de tout ce qui touche à la sainteté. On voit des choses, on veut voir des choses. L'œil, il est fait pour voir. On voit plein de choses. Mais finalement, dès qu'on voit, on interprète. Et dès qu'on interprète, d'une certaine manière, dans ce qu'on voit et ce qu'on regarde, on adhère. Et la Torah nous demande de faire attention à ce qu'on regarde. Alors, quel est le lien avec le don de la Torah? C'est que dans le don de la Torah, les yeux jouent un rôle important. Parce qu'il est marqué que les Juifs ont vu des voix. Au moment où Hachem s'est adressé à eux, il n'est pas écrit qu'ils ont entendu des voix, c'est écrit qu'ils ont vu des voix. Que s'est-il passé au Harsinaï? Au Harsinaï, Hachem a guéri l'ensemble du peuple juif, il n'est plus malade. D'ailleurs, j'en profite pour dire à celles et ceux qui nous écoutent que ils le seront pour Shavuot de l'année prochaine. Il faut toujours prier pour les malades au moment du don de la Torah. C'est une grande ségoula, c'est connu, puisque c'est le moment où Hachem nous a guéri. Et donc la force qui a eu, qui s'est, qui a été, la force qui a prévalu donc au moment du don de la Torah, elle se renouvelle chaque année. Mais les Juifs ont vu. Qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? C'est qu'en fait, cette force spirituelle que Dieu a donnée à son peuple, leur a permis non pas d'entendre ce que Dieu disait, mais de le voir, c'est-à-dire par le regard, d'activer le désir et de le rentrer dans leur expérience intime. En fait, le lien qui va être établi avec la Torah au moment du don de la Torah, c'est un lien qui passe par les yeux, mais qui est tellement profond que les yeux voient des voix, c'est-à-dire qu'ils vont désirer voir ce qui peut en fait ne peut que s'entendre. Ils vont l'intégrer dans leur expérience intime. Une petite parenthèse au passage, vous savez que la grande différence entre la Gemara et le Zohar, c'est que dans la Gemara, quand on propose d'apprendre quelque chose, on dit « Tashma, viens, écoute », mais dans le Zohar, on dit « Tachazé, viens et vois ». Parce que quand les yeux sont utilisés comme il convient, ce n'est pas seulement qu'on entend un enseignement ou qu'on intègre un enseignement, c'est qu'on le voit et donc on l'intègre dans notre cerveau par une espèce d'expérience émotionnelle et donc on fait avec cet enseignement, on bâtit une relation intime. Et en fait, c'est ce qui se passe ici. Au moment du Mont Sinaï, Am Israël devient Am Segula, le peuple choisi par Hachem, pour recevoir la Torah, transporter la Torah dans le monde, être Mamlechen Kohanim Begoy Kadosh, une congrégation de prêtres et un peuple saint. C'est quoi cette sainteté? Ça tient surtout sur le fait qu'on va apprendre à regarder des choses qui sont des choses qui vont nous permettre d'avoir une expérience intime avec les Mitzvot et avec la Torah. À l'inverse, effectivement, quand on dévoie, quand on démolit ses yeux, ben finalement, effectivement, on démolit sa vue, on démolit l'expérience intime qu'on peut avoir dans la relation avec Hachem, et donc on perd. Et donc, c'est ce qui va arriver à Shimshon. Le nazir et la femme sota, ce sont un peu les expressions, ce sont des symptômes. En vérité, le nazir et la femme sota, cet homme qui se prive de vin ou cette femme qui s'est dévoyée en compagnie d'un amant, ce sont des gens qui, avant toute chose, abandonnés, ont vu, mais ont vu de manière tordue. Et à un moment donné, ils doivent redresser ce qu'ils voient et donc aller vers une expérience de privation d'une certaine manière. Alors, il faut savoir que le nazir, c'est quelqu'un qui n'est pas tellement apprécié dans la Torah. On raconte l'histoire de Shimon HaTzadik, on va conclure avec ça. Shimon HaTzadik, lui, il prenait jamais les corbanotes, les sacrifices que les nazirs amenaient. Mais une fois, il en a vu un et ça lui a beaucoup plu. Il a dit, pourquoi tu veux faire ce vœu? Il a dit, je suis un jeune et bel héritier. Et un jour, je me suis penché sur un étang pour boire, je me suis vu, je me suis beau, et là, mon yetzerara, mes forces négatives m'ont dit, bah, vas-y, profite de ta beauté, profite de ton argent, profite du monde. Et là, j'ai dit, non, Reka, je me suis interpellé en me disant, mais tout ça, c'est vide, tu veux profiter d'un monde qui n'est pas le tien. Ça aussi, c'est un regard. Finalement, la beauté, l'intelligence, l'argent, en profiter, c'est profiter d'un monde qui n'est pas les nôtres. La seule chose qui est à nous, c'est finalement l'expérience intime des mitzvot qu'on va faire, des commandements qu'on va accomplir, qui va nous permettre d'ancrer en nous l'intimité de la relation avec Hachem. Ça, c'est quelque chose qui m'appartient. Mais ce qui m'a été offert, la beauté, l'argent, la sagesse, l'intelligence et autres, etc., ce ne sont que des cadeaux. Ma relation avec Hachem dépend de la relation que je vais entretenir avec ces cadeaux. C'est ça qui fait toute la différence. Et donc, l'expérience à la fois de la sainteté, mais en même temps, l'expérience de la Torah et des mitzvot. Comment j'utilise les ressources que Hachem m'a donné. Voilà, c'est la raison pour laquelle donc la parashat Nassau est régulièrement et toujours lue après le don de la Torah, et on lit également l'Haftara de Shimshon. Si vous voulez retrouver ces enseignements, regardez le Mirtav Meliaou du Rav Eliaou Dessler sur parashat Nassau et sur l'Haftara de Shimshon. Il développe cette thématique de manière un peu plus complète. Voilà, à toutes et à tous, Shabbat Shalom, ça fera une belle table de Shabbat, prenez le Mirtav Meliaou, passionnant et magnifique. Shabbat Shalom.
Et bien moi, c'est à mon tour de vous souhaiter Shabbat Shalom. On a bien compris, on va essayer de... Moi, ce que je fais des fois aussi, c'est que j'imprime au bureau des choses que je suis content de ramener, ou tout simplement je redis, tiens, qu'est-ce qu'ils... Bon, on me demande toujours, qu'est-ce qu'ils ont dit les rabbinim dans l'émission Kabbalat Shabbat. Alors j'ai l'air très intelligent l'espace de 2 minutes. Rav Mordechai Biton, je vous remercie, et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom à tout Am Israël.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gueh, vous avez remarqué que notre paracha revient à 12 reprises sur 12 sacrifices de 12 princes. Le problème, c'est que vous nous avez toujours enseigné que la Torah, elle n'utilise pas des mots pour rien. Donc il y a forcément une raison, et c'est sur ce sujet que vous voulez intervenir ce soir.
Alors effectivement, la paracha de Nassau est la plus longue de la Torah. Et effectivement, ce record est entre autres dû au fait qu'on répète 12 fois les mêmes mots, les mêmes, enfin presque les mêmes mots. Il s'agit des 12 offrandes des 12 princes d'Israël qui ont inauguré le tabernacle. Chaque jour, un autre prince, un autre chef de tribu a apporté son propre sacrifice. Alors la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi cette répétition, on aurait pu mettre en facteur, on aurait dit par exemple le premier, on aurait dit que tout le monde a fait la même chose, et dans quel ordre. Bref, on aurait pu facilement économiser des pages. Eh bien, chers amis, ici, la Torah nous apprend un élément très très important que nous savons, mais que nous n'avons pas toujours la présence d'esprit ou tout simplement les midot pour le faire. C'est ce qu'on appelle la Hakarat HaTov. La Hakarat HaTov, en traduction française, c'est la reconnaissance, la gratitude, exprimer sa gratitude, exprimer sa reconnaissance. Et là, Hakadosh Baruch Hu, si on peut dire, veut nous enseigner que on reprend à 12 reprises, parce que Hachem va remercier chaque prince, chaque représentant de tribu, en lisant Chazaku Baruch Hushkoyer, je ne sais pas si c'était Ashkenaz ou Sfarad, en tout cas Chazaku Baruch Hushkoyer pour chacune des offrandes, et en montrant que chaque offrande de chaque chef de tribu est chère à ses yeux. Donc c'est comme s'il tendait la main, comme un remerciement, une pointe de main chaleureuse pour vraiment marquer sa reconnaissance. Puis après, la Torah à la fin fait un calcul, un compte général. Alors, ça fait combien de sacrifices ? Alors, on fait le bilan. Donc, on reprend encore quelques versets, alors que très simplement, on pourrait faire un petit calcul nous-mêmes. Mais la Torah elle-même refait le compte total. Alors, c'est quoi le total de tout ce qu'ils ont apporté ? Tout ça pour nous apprendre quelque chose de très important, c'est qu'un pourrait se vexer en disant « Mais voilà, moi j'ai été apporté le deuxième, l'autre il a apporté le troisième, moi le premier. » Chacun pourrait avoir peut-être de la jalousie parce que l'autre était avant lui. Alors Hachem dit « Voilà, le total c'est ça pour vous dire qu'en fait ils sont tous importants à mes yeux, il n'y a pas de différence. » Ne réfléchissez pas à ce que l'un il a quelque chose de plus que l'autre, non. Vous êtes tous égaux devant moi et je vous remercie à chacun de façon, on va dire, la plus égale possible, et donc c'est pour ça que je le marque en rajoutant encore des versets à la fin. Et ce point-là de Hakarat HaTov, la Torah, hein, encore une fois, c'est qui doit avoir la Hakarat HaTov ? Est-ce que c'est Dieu qui a Hakarat HaTov pour les princes ou c'est plutôt les hommes qui ont de la Hakarat HaTov envers Hakadosh Baruch Hu ? Donc, en plus, Hachem ne doit rien à qui que ce soit, c'est nous qui lui devons. Mais là, c'est un exemple qu'Hachem nous donne. C'est une façon de nous motiver à comprendre qu'en fait, dans la vie, ce qui est très important, c'est de pouvoir dire merci. Alors, on se dit, merci, c'est un mot facile, un mot que l'on dit sans problème. En fait, non. Le mot merci en hébreu se dit toda. Et c'est le même mot, toda, veut dire hoda, c'est-à-dire avouer, reconnaître. Et qu'en fait, lorsqu'on dit merci, on reconnaît qu'on n'a pas été capable de faire la chose, que cette chose, on la doit à un tel. Et c'est pas facile de reconnaître qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'on n'a pas été capable tout seul de faire ou d'agir dans telle ou telle situation. Et on reconnaît que l'on doit cela à quelqu'un. Et ça, cette force-là de la Hakarat HaTov est un des fondements sur lequel même la Torah revient dès le début, lorsqu'elle dit que les hommes de la tour de Babel, ils sont appelés les Bnei Ha-Adam, les fils de Adam. Alors que c'est une expression très bizarre, qu'est-ce qu'on veut dire que c'est les fils du Adam ? Le fils d'Adam Harishon, parce que les hommes de la tour de Babel se sont rebellés contre Hachem, ont marqué une ingratitude extraordinaire. Alors Akadosh Baruch Hu dit, oui, je sais d'où vous le tenez. Vous tenez ça de Adam Harishon, le premier homme, lorsque je lui reproche d'avoir mangé le fruit interdit, qu'est-ce qu'il dit ? C'est la femme que tu m'as donnée. Attendez, la femme que tu m'as donnée, mais cette femme, c'est toi qui me l'as réclamée. Moi, je t'avais construit, créé avec une femme, on va dire, collée à toi, mais pas une femme qui est en face de toi. Et toi, tu as demandé que les choses changent. Donc, je l'ai fait pour te faire plaisir, et maintenant, tu me dis, c'est à cause de moi que j'ai fauté, parce que la femme que tu m'as donnée m'a incité à manger du fruit. Donc vous êtes les descendants, dit Hachem aux gens de la tour de Babel, de ces ingrats, de cet ingrat qui s'appelle Adam Harishon. Donc cette ingratitude, elle est malheureusement un peu dans notre ADN, dans notre... Pourquoi ? Parce que c'est très difficile de reconnaître que l'on doit quelque chose à quelqu'un. On est très fier, on a envie de montrer qu'on est capable de tout. Et voilà, c'est un effort d'humilité, et on a beaucoup de mal avec l'humilité. Voilà un petit peu le sujet. C'est important de le dire aussi, c'est que la gratitude, c'est pas seulement dans le cœur, elle doit être exprimée de façon très claire. Et c'est intéressant que dès l'inauguration du Mishkan, où justement le Mishkan, le tabernacle, s'est apporté des sacrifices, dont des sacrifices de remerciement, reconnaissance de la suprématie de Dieu, tout cela introduit le service divin au Mishkan, et qui est effectivement basé sur la reconnaissance, la gratitude. Parce qu'un homme qui ne sait pas reconnaître, eh bien, il aura des problèmes dans tous les domaines de sa vie, évidemment. Il aura des problèmes avec sa femme, il aura des problèmes avec ses employés, et avec tout le monde, parce que tout est basé sur les encouragements, la reconnaissance. Et donc, voilà l'occasion pour nous de nous rappeler tout cela et de nous renforcer dans ce domaine, en étant déjà encore plus, peut-être en faire plus que nécessaire plutôt que de faire moins que nécessaire, parce que on sort tous gagnants. Et celui, évidemment, à qui on fait des compliments et à qui on reconnaît sa gentillesse et à qui on montre notre reconnaissance, mais également pour nous-mêmes. Parce que rien de pire qu'un homme qui n'a aucune gratitude. Ça, c'est un homme qui est, selon nos sages, même pas appelé homme. Être un mensch, être un homme, c'est être capable de dire merci. Et notre nom, Yehudi, c'est le juif, c'est le mot Yehuda. Yehuda, c'est parce que Léa a remercié Hachem pour ce quatrième fils qui n'était pas a priori prévu. Et donc, elle a remercié Hachem. Nous sommes des Yehudim, nous avons remercié Hachem pour tout ce qu'il nous fait. C'est l'occasion pour nous de le dire et de le redire encore. Remercions tous les jours Hachem, à chaque instant, pour ce qu'il nous fait. Et même si on a l'impression qu'on aimerait d'autres choses et autrement, remercions Hachem pour ce que nous avons. Parce que ce que Hachem nous donne, c'est toujours le meilleur, même si on ne comprend pas toujours ses chemins. Shabbat Shalom.
Rav Guy, merci pour ces belles paroles. Et à mon tour, je vous souhaite Shabbat Shalom. Bonsoir à vous.
Shabbat Shalom. Au revoir.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy bay, Hashem lo yine bayis. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy bay.